Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Macron en deux, la politique bouge-t-elle encore? Alors qu'il vient de fêter sa première année passée à l'Élysée, les principaux chefs de l'opposition seront reçus ce soir sur France 2 pour débattre de la politique d'Emmanuel Macron, hégémonique au Parlement, incontesté au sein de son parti. Et maintenant, les journalistes à distance, le chef de l'État a pris l'habitude d'avancer sans discuter, comme si la politique moderne nécessitait de ne plus faire véritablement de politique. La politique française bouge-t-elle encore? Eh bien, on va évoquer cette question en votre compagnie, Nicolas Rousselier. Bonjour, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de « La force de gouverner le pouvoir exécutif en France » aux éditions Gallimard. Si vous deviez définir ce qu'est le macronisme, que diriez-vous ?
Je dirais, le macronisme, à son départ, est difficile à définir parce qu'il n'y a pas de travail politique qui préalable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que le macronisme est la suite d'un travail politique qui se serait effectué dans un parti après des discussions entre différents courants, comme on avait l'habitude de le cas, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, au fond, on a affaire à un objet politique qui n'a pas de pédigré, en tout cas en apparence, qui n'a pas de préalable. En fait, il se définit sous nos yeux depuis un an, au fur et à mesure. Il se définit sous nos yeux, donc, comme je dirais presque un pur exercice du pouvoir. Donc c'est l'exercice du pouvoir qui définit le macronisme. Et si on devait faire un jeu de mots plus ou moins bon, on pourrait dire qu'il se définit en marchant. C'est-à-dire qu'il a commencé par le mouvement En Marche. Maintenant, le mouvement En Marche est un petit peu régulé puisqu'il est devenu...
Vous voulez dire qu'il fait de l'opportunisme ?
Il fait une série d'actions qui ont été prévues dans une feuille de route, puisque le mot feuille de route est un peu le mot clé qui définit le macronisme. C'est une feuille de route qu'il donne à chacun de ses ministres, c'est une feuille de route qu'il s'est donnée à lui-même. Donc la feuille de route existe, en ce sens, il n'improvise pas des solutions par rapport à des problèmes qui surgissent. C'est pas de l'opportunisme pur, mais on peut effectivement faire une comparaison avec ce qu'on appelait dans les vieux livres d'histoire les républicains opportunistes. À la suite de Gambetta, du début de la Troisième République. C'est-à-dire qu'ils avaient un programme, ils avaient un certain nombre de repères, mais face aux circonstances, et on peut penser notamment à des circonstances militaires, la défaite devant la Prusse, la nécessité de reconstruire un pays fort, ils ont effectivement serré les problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont étalé les problèmes dans le temps. Sauf que là, on peut dire qu'il étale, oui, les problèmes dans le temps, mais ça, c'est une nouveauté. Et il s'attaque à plusieurs fronts en même temps.
Avec des choses qui étaient très largement formulées dès la campagne présidentielle. Ça, pour le coup, l'opportunisme, ça existe quand on gouverne au gré des circonstances. Lui explique qu'il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Enfin bref, à cet égard, il n'y a pas de véritable surprise. En tout cas, c'est la question que je vous pose, Nicolas Rousselier.
Non, il n'y a pas de surprise. Si on essaye de faire la part entre le nouveau et le non-nouveau, aujourd'hui, au bout d'un an, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que ce qu'il n'y a pas de nouveau, par exemple, au fond, c'est ce qu'est devenu la République En Marche, qui est maintenant absorbée dans son rôle de parti qui doit absolument assurer la majorité à l'Assemblée. Et donc ça, c'est pas nouveau. La République En Marche est maintenant soluble, si je puis dire, dans la nécessité d'apporter un soutien quasi sans faille, quasi sans fronde, aux réformes qui sont préparées en amont dans la sphère de l'exécutif. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est typique 5e République. Ce qui n'est pas nouveau non plus, ce sont les instruments que reprend à son compte Macron, le présidentialisme, le rapport au Premier ministre, et puis le fait, effectivement, de tenir toute sa boutique. De tenir en main ferme, sans couac, l'ensemble de sa boutique. Tout ça n'est pas nouveau. N'est pas nouveau non plus le contenu des réformes, parce que le contenu des réformes, aussi bien pour la SNCF, bientôt les retraites, etc., tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, pour moi, c'est plus immatériel, c'est à la fois le style du président, sa rhétorique, parce qu'au fond, il y a ce côté, il ne cache pas son éloge de l'autorité. Il ne se cache pas derrière une rhétorique, par exemple, qui ferait référence à l'ancienne tradition républicaine, où il fallait des pouvoirs équilibrés, il fallait une présidence normale. Tout ça, il n'en parle absolument pas. Donc il y a une nouvelle rhétorique, un nouveau style, et qui est assumé.
Est-ce que c'est un style qui, là, est essentiellement utilisé pour se distinguer de son prédécesseur ? On parle d'autorité, on est même allé un poil plus loin en parlant parfois d'autoritarisme. Est-ce que c'est là pour signifier qu'il se distingue d'un homme François Hollande qui cultivait plutôt l'art de la synthèse ?
Oui, à l'évidence. Je pense qu'il y a quand même deux couches. C'est-à-dire, à l'évidence, comme il a été témoin en première loge de ce qui se passait sous la présidence Hollande, il en a tiré des conséquences qui prennent le contre-pied de la présidence normale. Mais je pense qu'il y a une deuxième couche encore plus longue qui vient de sa réflexion sur l'ensemble de l'évolution de la Ve République, de la politique en général, de l'action publique, où il constate effectivement, bon, c'est ce qu'il dit dans ses différents interviews, que depuis 30 ans, l'action publique est elle-même paralysée ou entravée et qu'il y a le besoin de redéfinir l'action publique de fond en comble. Donc, c'est plus simplement qu'un anti-hollandisme.
Et du côté de l'opposition, puisque cette situation paradoxale, je le rappelais en introduction tout à l'heure, Nicolas Rousselier, on a à la fois un président qui est plus populaire à ce stade de son mandat que ses prédécesseurs, mais qui, malgré tout, n'atteint pas une cote de popularité majoritaire, et de l'autre côté, une opposition qui semble peiner à exister. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors ça, je pense pas que ce soit forcément tout à fait nouveau qu'il y ait une difficulté de l'opposition au lendemain d'une défaite. Bon, finalement, c'est un mécanisme assez normal. La nouveauté, plutôt, qui est assez frappante, c'est que on a un dispositif de l'exécutif entre président et premier ministre, et le premier ministre n'est pas le chef du parti majoritaire. Le premier ministre n'appartient même pas à La République en Marche. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on voit que, d'une certaine manière, l'exécutif a sa propre nécessité. Il met en appendice et en soutien auxiliaire le groupe majoritaire à l'Assemblée. Et tout ça fonctionne. C'est pour ça que je parle d'exercice du pouvoir. C'est-à-dire on passe de réforme en réforme, l'une après l'autre, au pas de charge. Et c'est ça qui semble remplir tout l'espace politique et médiatique. Si bien qu'il y a l'expression de la critique des réformes, mais ça se fait toujours sur ce rythme imposé par l'exécutif. Si bien que le programme qu'on pourrait appeler le programme idéologique ou positif de chacune des oppositions n'apparaît pas. Les oppositions sont rivées ou sont obligées finalement de réagir eux-mêmes au coup par coup.
On a effectivement cette situation par rapport à l'opposition, mais la vraie différence, en tout cas celle que l'on peut imaginer, c'est par exemple la difficulté pour la droite est de pouvoir recomposer un discours, de prendre un certain nombre de thèmes qui se distinguent de du pouvoir. Là aussi, votre point de vue, Nicolas Rousselier.
Oui, c'est-à-dire qu'on a les deux choses. C'est-à-dire, en fait, cette marche du pouvoir, hein, le fait même de marcher presque, de courir de réforme en réforme, le contenu des réformes, en gros, coupe l'herbe sous les pieds de la droite, puisque le contenu de ces réformes est assez quand même comparable à ce qu'aurait fait par exemple la droite, peut-on dire peut-être la droite modérée, si Alain Juppé avait été élu, puisque le Premier ministre Édouard Philippe était lui-même dans l'entourage très proche d'Alain Juppé. Et Édouard Philippe fait finalement en gros une bonne partie des réformes que lui-même aurait peut-être contribué à faire avec Alain Juppé président.
Lui, il le nie, puisqu'il dit « je ne suis pas le Premier ministre d'Alain Juppé, je suis le Premier ministre d'Emmanuel Macron ». C'est de la rhétorique ?
C'est-à-dire qu'en fait, le contenu même, qu'on peut appeler, disons, néolibéral des réformes, n'aurait pas été strictement différent avec un président Juppé ou Édouard Philippe n'aurait peut-être pas été Premier ministre, mais ministre ou conseiller. Donc d'un côté de la droite, il y a cet assèchement du débat politique parce qu'il y a rencontre, convergence sur le contenu des réformes. Sur la gauche, je dirais que là, c'est ce combat social, où le macronisme, là aussi, pousse dans les cordes la gauche, enfin, la gauche critique, puisque la gauche critique se retrouve effectivement à être à la fois à la tête, mais sans être vraiment à la tête, et peut-être enfermée dans une succession de luttes sociales, plutôt que d'avoir l'espace public pour pouvoir proposer un ensemble de programmes cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, les luttes sociales sont elles-mêmes à la merci d'un rythme effréné que les luttes sociales ne définissent pas, puisque le rythme des luttes sociales, l'une après l'autre, celle de l'automne, celle du printemps, il y aura probablement de nouveau une lutte sociale au prochain automne contre la réforme des retraites, ce rythme est lui-même imposé, en fait, par l'exécutif.
Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que la gauche dite radicale, autrement dit la France insoumise, semble plus exister, en tout cas dans les sondages c'est le cas, elle semble plus exister que la gauche modérés. Je pense notamment au Parti Socialiste, où là, on a, semble-t-il, des difficultés, voire une incapacité, par exemple, à atteindre aujourd'hui un score à deux chiffres dans les intentions de vote, ce qui est particulièrement faible pour le Parti Socialiste Nicolas Rousselier. Donc, on a une sorte de face-à-face entre le pouvoir et, sur sa gauche, la France Insoumise.
Oui, mais je pense que la France Insoumise est peut-être une fraction aussi du Parti Socialiste, ou bien des anciens socialistes qui sont sortis du parti, comme Benoît Hamon. Leur existence politique dans le macronisme est quand même indexée à ce rythme même des luttes sociales. Et moi, je suis toujours frappé par le fait que, d'une certaine manière, la France Insoumise, en premier, avec son leader, Jean-Luc Mélenchon, voire son leader en second, François Ruffin, finalement, est elle-même prisonnier de ce ring de boxe où il y a une ultra-personnalisation des acteurs. Et de cette manière, la France Insoumise nous offre essentiellement, je ne dis pas pour les militants ou ceux qui s'intéressent en profondeur à la politique, mais je parle plutôt pour une partie de l'opinion générale qui s'intéresse moyennement à la politique, je pense que la France Insoumise apparaît essentiellement elle-même à travers la personnalité de son leader, à travers ses déclarations plus ou moins fortes, plus ou moins violentes. C'est ça aussi le grand paradoxe, c'est que le macronisme réduit en fait l'ensemble des acteurs politiques à une ultra-personnalisation.
Mais alors justement, si je vous suis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une forme de disparition des partis. On a donc La République En Marche qui est, on va dire, un parti d'un type nouveau, vous allez réagir à ça. La France Insoumise, c'est la même chose. Le Front National, qui lui aussi est quand même centré autour de la personne de Marine Le Pen. Et on voit mal, finalement, les autres forces émergentes, ou en tout cas, on voit mal la manière dont les partis, aujourd'hui, peuvent se tirer de ce jeu-là.
Oui, je pense que les partis existent encore, mais ils n'interviennent pas dans les mêmes arènes, ou ils n'interviennent pas dans les mêmes espaces. C'est-à-dire que on voit que les partis peuvent encore exister en termes de militantisme, en termes de capacité de mobilisation. C'est le cas de la France Insoumise, par exemple. Mais ce qui est quand même accentué avec le macronisme, mais qui vient d'un mouvement de la Ve République, c'est que les partis politiques, au fond, on ne les voit plus s'exprimer, j'allais dire, dans, vous savez, ces formes un peu à l'ancienne, qui aujourd'hui paraîtraient, je pense, assez ringardes, ces congrès, ces conventions, où il y a le temps de la discussion, le temps de la division, le temps des oppositions entre les différents courants. Et il n'y a pas non plus l'expression dans l'arène parlementaire. Sauf si on considère que les bisbilles, les frasques, et puis tout ce qui se réduit en quelques tweets, fait figure de discussion parlementaire. Mais ça n'est pas le cas. Donc la nouveauté, c'est pas que les partis ont disparu en termes d'appareil, et de capacité de mobilisation dans la rue, c'est plus que les partis, là encore, sont asséchés. Ils sont asséchés parce qu'il n'y a plus l'expression d'un long et lent et nécessaire travail politique.
Vous dites politique ringarde, d'autres disent vieille politique, mais ce qui est étonnant là aussi, c'est que de chaque côté de l'échiquier, du côté du macronisme, par exemple, les références sont, par exemple, des références à De Gaulle, parfois on entend parler de Pompidou, bref, des choses qui ne sont pas complètement neuves. De l'autre côté, pour la gauche radicale, c'est plutôt mai 68, donc c'est une forme de rénovation par l'ancien quand même.
Oui, en partie, mais quand vous prenez historiquement le gaullisme à partir de 58, la construction du nouveau parti, il y avait eu des partis gaullistes auparavant, mais la construction du parti gaulliste à partir de 58, c'est vraiment un enfant et un produit de l'exécutif lui-même. C'est-à-dire que, évidemment, c'était ultra personnalisé derrière la personnalité du chef. Il y avait des congrès, il y avait, si vous voulez, des fédérations, des comités locaux, etc. L'ensemble d'un appareil traditionnel d'un parti. Mais déjà, à cette époque-là, le travail politique était quand même indexé presque complètement sur les objectifs d'un exécutif présidentiel. Donc le macronisme reprend en partie ça, et là c'est pas tellement nouveau, parce qu'encore une fois, La République En Marche, on peut estimer, en étant optimiste, si vous voulez, qu'il y avait un certain souffle dans La République En Marche, dans les marcheurs, lors de la campagne électorale. En tout cas, quand on les écoute, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Finalement, la seule définition qu'ils donnent eux-mêmes du macronisme, c'était l'idée qu'ils s'étaient mis en marche pour quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une fonction, rivés, piégés dans une fonction de parti qui soutient à l'Assemblée pour assurer la majorité.
On a parlé de la gauche, radicale, de la droite. La droite radicale, Marine Le Pen et le Front National, ont-ils aujourd'hui un espace? Comment voyez-vous leur avenir en Macronie?
Ça, je crois que c'est le plus difficile à définir, parce que Bon, pour la petite histoire, on voit bien que Marine Le Pen a subi le contre-coup de son échec présidentiel et l'échec notamment du débat. Mais l'histoire du Front National a toujours été des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on voit toujours que le Front National, après une défaite présidentielle, se retirait un peu sur l'Aventin, attendait son heure et repartait de plus belle quelques années après. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire du Front National a toujours été discontinue plutôt que continue.
On va voir effectivement dans une seconde partie comment le macronisme peut continuer à muer, à se transformer, à transformer la vie politique française. Et d'ailleurs, on va se pencher sur une interview qu'Emmanuel Macron a donnée à la NRF. Une interview assez intéressante où il dit par exemple « Le grand enjeu, c'est de sortir de l'insignifiance. Nous vivons depuis 30 ans une forme de postmodernisme mal digéré. » On va voir un peu en quelque sorte quelle est à la fois l'idéologie, l'anthropologie du macronisme. En votre compagnie, Nicolas Rousselier, je rappelle que vous êtes politologue, vous avez publié La Force de gouverner, et Elisabeth Pinault, qui est correspondante politique pour Reuters, et en quelque sorte notre présidente à nous, journalistes, puisqu'elle est présidente de l'association de la presse présidentielle.